sur la bande. Are you ready?
On met notre casque, nos gars et tout notre équipement.
Ouais.
Pour la game, on est prêt à jouer chaque moment.
Chaque moment.
Pour une bonne mise au jeu, avec le ref, on est baveux. Mise en échec quand on peut, tu sens la victoire dans nos yeux. Prêt pour la victoire, on peut soulever les gros trophées. La coupe, on veut l'avoir, notre équipe est surclassée. Autour du filet, toutes les équipes sont admises. Malgré les coups de sifflet, sur la place, tout est permis. La saison 5, c'est parti, yes. Il aura pas de chichi. Ici pour toute la vérité, je vous le promets, je vous le dis.
Ouais.
Sur la bande, c'est la meilleure équipe, toujours là pour les hits. Notre succès a pas de limite. Zeb est back avec de nouveaux invités. Avec passion pour jaser, toujours là pour commenter. Le show va commencer, faut surtout pas le manquer. Sur la bande, faut écouter, ici c'est le podcast du hockey. Du hockey.
Bonjour tout le monde et bienvenue à ce quatrième épisode. On va épier un autre joueur de la LHGMQ, mais ce coup-ci, c'est l'attaquant des Tigres de Victoriaville, Egor Shilov. C'est un Russe. Il a joué aux États-Unis la saison.
Il a joué avec le Mustang, si je ne me trompe pas.
Il a joué avec Green Bay Grambers, puis le Long Island Seagulls. Ben, tu sais, je vais te laisser commencer, puis on va y aller avec le flow.
Donc, pour commencer, je vais redire le potentiel global. Je le classe, c'est les aptitudes générales du joueur. Le potentiel LNH, c'est les chances que le joueur a atteint son floor dans la Ligue nationale ou plus. Pour Egor Shilov, je l'ai classé d'un potentiel LNH de B. T'sais, je pense qu'il y a quand même de bonnes aptitudes, mais il y a quand même du travail à faire. Son potentiel global est à B+. Parce que, comme je dis, ses forces sont électrisantes, c'est un joueur flashy, mais ses choses à travailler sont quand même présentes, on va les mentionner. Sa vision, sa lecture, je l'ai classé à moins. Je pense que sa vision de jeu est exceptionnelle. Permettez-moi l'expression, carry de l'éthique de Victoriaville cette saison. Je pense que je ne m'attendais vraiment pas à cette performance-là. C'est surtout que c'était pas un espoir que je connaissais tant que ça. Je l'avais vu avoir de bonnes saisons dans la USHL, mais je pense que vraiment... mis son empreinte là, cette année dans la LHMQ. Ça lui a d'ailleurs permis un contrat avec Boston University l'année prochaine. J'ai hâte de le voir évoluer à BU. Son tir, je l'ai mis à B+, ça passe à A-. C'est des bonnes aptitudes. Son tir, je pense qu'il est quand même à travailler. Il est quand même assez prévisible dans ses choix de tir. Sa passe est exceptionnelle. Je pense que ça va être son atout principal dans la Ligue nationale. Son jeu défensif, je l'ai mis à C+. Mais par exemple, il y a des améliorations, puis il y a quand même des bonnes choses dans son jeu défensif. Je pense qu'il y a la volonté, il n'y a juste pas le gabarit. À 6 pieds 1, je pense qu'il peut encore mettre du poids sur sa charpente. Il fait quand même que 170 livres. C'est peut-être qu'il s'est rapproché du 180 au fil de la saison, mais en allant à l'université, je pense que ça va lui permettre de travailler sur sa charpente. Puis c'est pas un joueur que je vois juste passer une saison là, dans les rangs universitaires. J'aimerais vraiment ça le voir passer une, deux, peut-être même trois saisons. À l'exemple de Michael Age. Tu sais, Michael Age, lui, il va prendre son temps, puis c'est parfait comme ça. Tu sais, il va pouvoir travailler sur ses mises au jeu, travailler sur sa charpente. C'est le même genre de travail que je voudrais voir faire chez Love. C'est un centre, mais je le vois être à l'aile dans la Ligue nationale s'il n'est pas capable de travailler sur ses mises au jeu. C'est des choses qui va, comme je dis, qui peut travailler, qui peut améliorer, puis qui a un potentiel. Son patinage est à B-. Je pense qu'il y a quand même un bon patinage nord-sud. Je pense que son agilité peut être à travailler. On l'a vu souvent se faire battre physiquement en série, surtout le long de la bande. Mais ouais. Je pense que Sheila, c'était aussi le moteur des Tigres. Il n'y avait pas grand-chose à couvrir à Victo en cette saison, on va être honnête. Fait que je pense que si tu couvrais Sheila, tu couvrais la majorité des menaces à Victo. Puis on l'a vu qu'il y a eu de la difficulté à se créer de l'espace. Ça va être à travailler. Et son jeu physique, sa combativité, je l'ai mis à B. Parce que quand ça va bien, il est tenace. Quand ça va mal, ça va mal. Puis je pense qu'il y a du travail à faire sur sa mentalité, peut-être. Là, tu sais.
C'est vrai que je pense il a joué avec la Team CHL pour le Prospect Challenge. Ouais. Il n'a pas connu, je pense, des gros matchs. Il n'a même pas de points, moins 3. Ça peut être des bonnes games pour lui.
Je l'avais noté, justement, c'est dans les points que je mentionnais. Quand ça va mal, ça va mal. Quand ça va bien, ça va bien. C'est un joueur très séquentiel. Mais il faut mentionner que ces séquences, quand ça va vraiment bien. Là, c'est des joueurs qui ne seront pas des super vedettes dans la Ligue nationale, c'est des joueurs par séquence. Puis c'est pour ça que je mentionne qu'il y a quand même un bon potentiel LNH. Sans dire que ça va être un joueur de premier trio, Gorshila va quand même le potentiel d'être un joueur offensif. faut juste qu'il travaille sa constance. Son intelligence offensive, comme je disais, ses rentrées de zone, sa transition, il est capable de dicter la vitesse du jeu. Ça, je pense que c'est quelque chose de rare pour un prospect qu'on va repêcher dans les eaux du top 20. Tu sais. Peut-être Liam Rock, je pense qu'il y a ce tempo-là aussi, Marcus Rock, mais tu sais, à part ces trois-là, je pense que c'est vraiment les joueurs là, électrisants qu'ils ont le hit factor. Il va vraiment juste falloir travailler avec eux autres. Sa créativité, sa vision, son contrôle de rondelle et son moteur. C'est des choses que j'aime. Par son moteur, je veux dire comment il voit les jeux se créer, comment il est capable de créer des ouvertures, comment il est capable de créer du tempo. Tu comprends? Sans dire que c'est un Lane Hutson, il est capable de créer comme un Lane Hutson crée. C'est vraiment ce qui fait en sorte que c'est un prospect dynamique, mais ses faiblesses sont nombreuses. Il peut dominer la pression, il peut dominer la rondelle quand il y a trop de pression, ce qui fait en sorte que ça tue le jeu puis ça crée des revirements, des deux contre un, des échappés. Il peut devenir discret quand le jeu devient coriace ou physique. T'as mentionné le tournoi des espoirs de la CHL. Moi, je me suis noté les séries éliminatoires. Je me suis noté ses joueurs avaient de la difficulté à lui offrir du soutien offensif quand c'était le seul qui était sur la feuille de pointage. Il commençait à se traîner des bottines, il avait une mauvaise attitude. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit travailler aussi avec lui. Juste la mentalité d'un professionnel. Il est jeune, tu sais, je veux dire, c'est normal. Il a le tir puissant, mais pas encore le travailler. Puis son jeu défensif n'est pas encore à point. Doit améliorer comment il protège la rondelle avec son corps et doit améliorer sa façon de se protéger. Il a pris des coups violents cette saison. J'ai trouvé ça incroyable qu'il ne se blesse pas, sérieusement. Je pense que, tu sais, il s'en va universitaire. À l'université, ça va être important qu'il protège ses épaules, qu'il protège sa tête, qu'il patine la tête levée. Je le sais que c'est un joueur dynamique. Il a quand même si son patinage était travaillé, sa vitesse nord-sud est quand même correct, comme je mentionnais, même ouais. Falloir qu'il patine la tête levée. Il va pouvoir, tu sais, je le compare un peu à Ivan Demidov, sa façon de patiner, tu vas comprendre la comparaison. Puis, tu sais, Ivan Demidov en série, on l'a vu que il a se créer un petit peu d'espace. Ouais. Que je vous fais juste mentionner ça parce que je pense que c'est un aspect qui peut faire en sorte que Shilov devienne encore plus dominant.
Tu sais, je l'ai vu jouer à Val-d'Or une couple de fois, on va se le dire. Victor ouais. Val-d'Or s'en fout quand même souvent. Puis, tu sais, je trouvais vraiment qu'il apportait. Quand il était sur la glace, oui, il est capable de créer des jeux, mais à la minute, il fait quand même assez d'erreurs.
Ah oui, là, tu sais. C'est pour ça, tu sais. Ouais, vas-y.
C'est pas le joueur parfait non plus, puis tu sais, son caractère aussi. Tu sais, quand il fait une erreur, faut pas qu'il réagisse, faut qu'il fonce, là, faut qu'il.
C'est pour ça que je mentionnais son attitude, ouais. Tu sais. Ouais. Quelqu'un qui a pas vu Igor Shilov jouer peut dire, ouais, mais il est dominant à 80 points. Oui, ouais. Mais c'est. C'est que son. Tu sais, quand je veux dire une attitude, c'est pas bon ça pour un banc. Quand tu vois ton joueur vedette se décourager, un peu, tu sais, je vais mentionner Nikita Kucherov en série contre le Canadien. Ouais. Tu sais, c'est pas un bon message que ça passe dans le vestiaire. Puis, tu sais, je comprends que c'est un joueur électrisant, dominant, qui s'attend mieux de lui. Mais quand c'est un de tes coéquipiers aussi qui fait une erreur, puis que ça paraît dans ton non-verbal, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Puis, tu sais, je pense pas que ça va nécessairement jouer sur son rang au repêchage. Tu sais, je pense que Igor Shilov. Il a quand même beaucoup de faiblesses, tu sais, je veux dire, ouais. Ses revirements sont à prendre en considération. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis B, parce que malgré tout ce qu'il fait de bien, il fait beaucoup de choses fait beaucoup d'erreurs aussi, beaucoup de choses à travailler. Ouais. Donc, je pense que, tu sais, oui, comme tu mentionnais par exemple, là, sa maturité, je pense que c'est le mot. Sa maturité
à travailler. Malgré ses 82 points, moins 11, l'an passé, il a fait 28 points avec Green Bay, moins 30. C'est vraiment ça que tu parles. Là. C'est le joueur qui réussisse à réparer ses erreurs aussi.
Oui, 100%. Il faut qu'il améliore ses couvertures. Il faut qu'il donne autant d'énergie en défense qu'il en met à l'attaque. Puis, tu sais, je pense qu'il comprend ça. Tu sais, je pense qu'il est capable de mettre un peu de pression. Je pense que c'est tout simplement, comme je disais, son moteur défensif qui doit être amélioré. Tu sais, il l'a offensivement. Puis, tu sais, c'est pour ça que je l'ai mentionné tout à l'heure. Il est capable d'être un joueur complet, il faut juste que les bottines suivent les babines, si je peux dire cette expression-là.
Tu l'as-tu classé dans quel rang? Parce que je check selon Elite Prospect, il y a pas mal de. Il est en 19 et 40. Là. Des fois, il.
Moi, ça va vraiment dépendre de ce que l'équipe recherche. Je vais t'expliquer, OK? Moi, je pense que c'est un joueur qui pourrait vraiment se peaufiner à une équipe comme le Mammouth, comme les Kings, qui manque cruellement d'offensive. Ouais. Tu sais, les Kings repêchent 17. Le Mammouth repêche 19. Washington ont deux choix, 16-18. Tu sais, je pense vraiment que ça peut être des équipes qui peuvent être intéressées en Yegor Shilov. Ouais. Je pense aussi que, comme on mentionnait ses points faibles, je pense qu'il y a des équipes qui peuvent être réticentes à l'idée de le repêcher. Quand j'avais fait ma chronique sur le site de Sur la bande, tu sais, je mentionnais justement que Shilov était un espoir élite, que moi, je le voyais personnellement entre le rang de 15 et 25. Mm-hmm. Mais ces séries éliminatoires m'ont... Puis tu sais, je mentionnais aussi le point dans ma chronique que ces séries éliminatoires allaient être décisives dans ma décision, que je voulais voir une maturité dans son jeu. Et ce n'est vraiment pas arrivé. C'est complètement l'inverse qui s'est produit. Je serais pas surpris. Puis les recruteurs se basent beaucoup sur les séries éliminatoires, surtout quand un prospect joue seulement une ronde. Ils vont vraiment regarder ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de mal, puis forcer d'admettre qu'il y a eu beaucoup plus de négatifs que de positifs dans le cas de Shilov. Je serais pas surpris qu'il glisse au repêchage. Je le vois quand même sortir avant un prospect comme Maddox Dagenais. Si je disais que Maddox Dagenais allait sortir entre le rang, exemple, 27 et 32, je pense vraiment que Shilov va sortir entre 20 et 25. Okay. Mais tu sais, je serais pas surpris que les Kings se laissent tenter par Shilov au 17e rang, là, tu sais, comme je mentionnais tantôt. Washington avec un de leurs deux choix aussi. Je pense que Shilov peut être un joueur qui se greffe parfaitement un duo des Protas. Hey, il y a Alexis puis Alexis Protas et Igor Shilov, ça serait un parfait combinement d'échec avant puis de créativité. Pourquoi que je mentionne ça, c'est que tu sais, oui, ça va prendre 2-3 ans à Shilov avant juste d'arriver pro. Je parle même pas de la Ligue nationale, je parle d'arriver pro. Mais tu sais, Alexis Protas va peut-être avoir 28-29 ans quand que Shilov va arriver. Puis le jeune Protas va être il va commencer le début de son apogée, tu sais, il va avoir 25-26 ans. Donc c'est parfait pour Shilov dans son développement. Puis je pense que c'est un type d'équipe Washington qui pourrait vraiment guider Shilov, sont bons avec leur prospect. Puis je pense que ça va être important dans le cas de Shilov qu'ils se fassent guider. Mm-hmm. Bref, je pense vraiment que Washington puis LA peut être une destination s'il se fait repêcher dans le top 20. Sinon, je pense vraiment que Shilov pourrait finir à une équipe comme exemple Vancouver qui manque cruellement de joueurs offensifs. Pittsburgh serait une place que j'aimerais voir Shilov. Je pense que Pittsburgh serait un fit parfait pour Igor Shilov. Boston, j'aimerais un peu moins. Je pense que Boston doit avoir une identité défensive pour jouer là. C'est pas le cas de Shilov. Mais Vancouver, je serais pas surpris, sérieusement. Si Vancouver prend, exemple, un Caleb Malhotra et un Igor Shilov pour le futur, là, ça pourrait être même un 1-2 punch qui joue sur la même ligne, peut-être une deuxième ligne, là, quand même assez intéressante.
Ouais, ça pourrait être vraiment intéressant. Puis, y a-tu un joueur que tu compares un peu, Igor Shilov, qui est dans la Ligue nationale, pour ceux qui connaissent un peu moins Shilov?
Je te dirais... C'est dur à dire parce que des joueurs qui sont comme Igor Shilov n'ont pas les faiblesses que Shilov a. Okay. Je te dirais peut-être un Gab Perreault. Comprends-tu la comparaison?
Ouais.
Tu sais, je pense que Shilov, tu sais...
Il a les habiletés, mais pas...
Il y a les habiletés, mais je pense qu'il n'y a pas le physique et le jeu défensif pour être sur une première paire, sur un deuxième trio constamment. Je pense que ça va être un joueur de troisième trio. Je pense qu'il peut faire le pont entre le troisième et un deuxième trio. Tu sais, un bon joueur de middle six offensif. Mais je pense que ses failles, ses faiblesses, puis surtout sa concentration à long terme durant un match va avoir un impact négatif sur sa longévité en tant que... Ben, sa longévité, c'est peut-être un mauvais mot, mais sur son aspect à long terme qu'il pourra avoir comme impact. Mais tu sais, Shilov, sa sécurité, tu sais, pour en revenir à comment que je l'ai classé tantôt, sa sécurité de prospect, je l'ai noté à 5.5, justement parce que, tu sais, il y a beaucoup de points d'interrogation. Son risque de floor, je l'ai quand même mis assez élevé, je l'ai mis à 8 parce que je pense qu'il y a tous les atouts pour être un joueur offensif. Il faut juste qu'il réussisse à trouver une stabilité entre le pace offensif puis l'apport défensif. Puis son style NHL, par exemple, je l'ai mis à 3 à 10 parce que c'est ce qu'il doit travailler le plus. Je pense qu'il n'y a aucun dirigeant de la Ligue nationale, aucun coach qui va accepter. Matvey Michkov, c'est le meilleur exemple que j'ai pour Igor Shilov. Matvey Michkov. Ouais. Je pense que, tu sais, Matvey Michkov a plus de talent offensif que Igor Shilov, mais tu vas comprendre ce que je veux dire par l'attitude du joueur. Mm-hmm.
Tu sais, je pense que Shilov... C'est pas pour rien qu'il a été benché, là.
Voilà, c'est direct le point que je m'en allais amener envers Shilov. Je pense que s'il continue d'avoir l'attitude qu'il a à Victoriaville, tu sais, Victoriaville pouvait tolérer ça parce que c'était leur joueur dynamique.
Ouais.
Sky. C'était leur joueur dynamique, excuse. Ouais. Mais je pense que, tu sais, il y a des points à corriger. Je pense. Ah! Il y a des points à corriger, mais ça va être vraiment. Bon, j'aurai pas le choix d'aller enfermer mon chien, ce sera pas long.
C'est good, pas trop.
Sky. Et
ok, c'est bon.
Je pense que Igor Shilov n'aura pas le choix de travailler son attitude parce qu'il n'y a aucun coach qui va se laisser marcher, pas marcher sur les pieds, mais aucun coach qui va tolérer qu'un joueur fasse ce genre d'attitude-là, surtout quand que chaque présence compte, chaque moment compte. Mm-hmm. Ça va vraiment être à Shilov de mettre les bouchées doubles dans cette partie de son jeu-là. Mais tu sais, le fait qu'il s'en va à BU aussi peut aider grandement. Puis, tu sais, je donnais la comparaison, c'est tantôt de Gabe Perrault. Je pense que c'est encore le même coaching staff. Je pense que c'est encore le même style play. Il y a beaucoup de prospects qui se ramassent à BU, qui ont de bons moments dans la Ligue nationale. J'aimerais ça que ce soit le même cas pour Igor Shilov.
Ouais.
J'espère qu'il va comprendre le message de l'équipe qui va le repêcher puis qui va être prêt à mettre les bouchées doubles dans son attitude.
Ouais, fait que ça termine pour Igor Shilov, un gros merci. Puis on se retrouve pour un autre capsule repêchage LNH 2026.